Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Aujourd'hui, émission exceptionnelle, on délocalise les studios, direction les bibliothèques Saint-Corneille de Compiègne. On est dans la salle Michel Le Châtelier, si vous voulez nous rejoindre, on est en public et en direct pour une émission spéciale rencontre littéraire avec pour parler du nouveau livre de Muriel Bellier-Kant. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, j'ai notre spécialiste à la radio, puisqu'on a une animatrice qui est membre de la radio, mais également bibliothécaire. Salut Aurore.
Bonjour.
Je ne me suis pas trompé sur ton prénom.
Non, c'est bon.
Et on a également Aurélien Knatt pour le mémorial. Vous pouvez prendre votre micro. Vous êtes directeur du mémorial de la déportation de Compiègne.
Oui, c'est ça.
Bienvenue. Et donc vous êtes prochainement aussi directeur des affaires culturelles.
Exactement.
Aurore, je te laisse mener à bien cette émission. Évidemment, l'émission est en direct sur Radio Graphite 94.9, sur le net www.graphite.net, et vous pouvez la réécouter en podcast.
Super, bah merci Brian. On ne t'a pas présenté, mais quand même. Muriel, bah déjà, merci d'être là. Ce n'est pas la première fois que tu viens en salle Michel Le Châtelier à la bibliothèque. Tu as déjà présenté d'autres ouvrages quand tu es venue. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de la parution donc, de ton dernier ouvrage, Un instinct de liberté, que tu es là. Et je suis ravie de t'accueillir une nouvelle fois. Nous sommes donc aussi avec Aurélien. Aurélien, tu nous diras tout aussi de ta fonction et puis avec le lien avec le livre de Muriel que tu as eu le temps de lire aussi. Donc ça, c'est super. On va le voir un petit peu après, mais cet ouvrage, Muriel, moi, je l'ai trouvé différent des autres que tu as pu écrire précédemment. C'est pas de la fiction comme dans Un avocat a disparu, c'est pas non plus un roman judiciaire et biographique comme dans le cas d'Angélique, l'empreinte d'une vie, où ils ont assassiné mon père, que tu as coécrit avec Alexander Lemaire. Un instinct de liberté, c'est un peu pour toi le baptême de nouveau genre, puisqu'on est sur de l'autobiographie ou de la biographie familiale, je sais pas comment tu diras. Et en même temps sur un témoignage historique. Donc voilà, c'est à ce titre que du coup Aurélien va pouvoir aussi prendre la parole dans le courant de l'entretien. Ma première question pour toi Muriel, c'est combien de temps ça prend d'écrire un livre comme celui-ci du coup, avec les recherches que ça demande, à la fois les recherches du coup sur tes ancêtres, je sais pas, peut-être que ancêtres c'est un peu too much, et en même temps sur le parcours par rapport à la Seconde Guerre mondiale, etc. Raconte-nous un petit peu ça déjà.
Alors, c'est déjà, on peut présenter quand même la thématique, puisque j'ai voulu écrire sur mes grands-parents, à la fois sur mes grands-parents paternels et sur mes grands-parents maternels. Donc, certes, ce sont mes ancêtres, mais pas si éloignés que ça. C'est un livre qui est effectivement est un livre extrêmement personnel, qui je suis toujours très émue de le présenter. Et ça représente un long parcours, pas aussi long que celui que les gens dont je parle dans ce livre ont pu faire pour arriver jusqu'à nous, mais en tout cas, un long parcours personnel. J'ai mis plus de 4 ans à l'écrire, en fait.
Ok, quand même, 4 ans. Sachant que tu as été quand même productive entre deux, t'as écrit
oui,
d'autres choses entre
d'abord
deux.
D'abord, j'ai écrit d'autres choses, puis j'ai aussi un métier, donc voilà.
Accessoirement, oui, t'es avocate, on le rappelle quand même, j'ai un compagnon. Ça te prend un petit peu de temps.
Un tout petit peu.
Dans le livre, on comprend rapidement que, du coup, t'as voyagé aussi pour vraiment retracer le parcours de tes grands-parents, du coup, je vais dire grands-parents. Jusqu'où t'as voyagé ?
Alors pour moi, c'était extrêmement important d'aller sentir les lieux dans lesquels notamment ma famille paternelle a pu vivre une histoire très singulière pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je suis allée en Pologne, je suis allée en Ukraine. Avant que ce ne soit la guerre. Je suis allée en Israël avant que ce ne soit la guerre. En fait, après, on m'a déjà dit que partout où j'étais passée, il y avait eu la guerre derrière moi, mais je suis pour rien. Mais en tout cas, je suis vraiment heureuse d'avoir en fait choisi ce temps-là pour faire ce voyage, puisque aujourd'hui, j'aurais beaucoup de difficultés à le faire.
À cause des situations politiques, tu veux dire ?
À cause de la situation politique. J'avoue que quand je me suis retrouvée dans l'immeuble dans lequel ma famille paternelle a vécu et a été arrêtée avant d'être déportée en Sibérie, j'ai ressenti quelque chose d'assez violent et en même temps très, très extraordinaire. quand quelques temps après j'ai appris la déclaration de guerre entre la Russie et l'Ukraine, enfin l'invasion plutôt de la Russie qui a été faite par la Russie en Ukraine, et immédiatement, alors c'est très égoïste, mais immédiatement j'ai eu cette peur totalement irrationnelle de me dire mais cet endroit va être détruit. Et puis, pour moi, en fait, ça a été extrêmement important d'aller dans ce lieu parce que j'ai réussi, alors j'explique dans le livre comment, par tout un plein de péripéties, j'ai réussi à rentrer en fait dans cet immeuble et à constater que cet immeuble était encore intact et certainement n'a pas bougé depuis les années 40. Tout était resté tel quel. D'ailleurs, les appartements étaient ouverts, éventrés. Donc, on sentait vraiment l'atmosphère qui n'avait pas bougé depuis toutes ces années. Et d'avoir ce lieu, finalement, de mémoire pour moi intact, c'était véritablement un moment d'émotion intense. Et me dire que peut-être il allait être détruit par le fait d'une nouvelle guerre, je peux pas expliquer, mais ça a été vraiment quelque chose de très déstabilisant pour moi. Donc voilà.
Comment se passe l'héritage familial? Comment on apprend quand on est petit? Comment on apprend un peu l'histoire de la famille? Est-ce que c'est quelque chose qui est pas trop dit aux enfants? Ou est-ce que justement il y a un vrai devoir de mémoire même au sein de la famille?
Ah non, c'est quelque chose qu'on ne dit pas aux enfants. C'est quelque chose qu'on ne raconte pas en fait. Donc les enfants découvrent pas à pas. Alors les enfants, bien évidemment, hein, constatent qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres dans cette famille. Il y a des gens qui ne parlent pas la même langue que vous. Vous voyagez beaucoup pour rencontrer les uns et les autres. Et puis petit à petit, parce que quand vous êtes enfant, en fait, vous passez votre temps à écouter aux portes. Vous passez votre temps à essayer de comprendre et décrypter les adultes. C'est ce que je dis toujours, moi, qui m'occupe d'enfants aujourd'hui. Je dis toujours ça aux parents. Je leur dis toujours, mais vous inquiétez pas, vos enfants le savent déjà. Et donc, vous essayez de comprendre. J'avais réussi à trouver dans la bibliothèque de mon père le livre qu'il avait apporté en France pour apprendre le français. Donc, ça traduisait du polonais en français. Et donc, moi, je m'étais mise à essayer d'apprendre et de déchiffrer. Alors, c'est tout seul, apprendre le polonais, c'est horrible. Mais juste pour déchiffrer les mots et pour essayer ensuite d'écouter les conversations que mon père avait avec ses parents pour essayer de les comprendre.
Est-ce que là, avec l'écriture du livre, vous avez découvert des choses nouvelles par rapport à l'histoire de la famille, ou est-ce que vous êtes fantasmé des choses quand vous étiez petit et que vous avez confirmé ou justement infirmé aujourd'hui ?
Alors, j'ai rien découvert par rapport à l'histoire en elle-même. En revanche, le fait d'aller sur les lieux où notamment une partie donc, de ma famille a vécu m'a permis de découvrir des choses effectivement sur... j'en parle notamment dans le livre, j'ai découvert que mon grand-père, qui était aussi avocat, a étudié à l'université de Cracovie. J'ai réussi à lire les registres dans lesquels il inscrivait les matières qu'il étudiait, et je me suis notamment rendu compte que toutes les matières qu'il avait étudiées étaient les matières que j'ai choisies moi quand j'ai voulu faire mes spécialités. Mais vraiment, il y a des concordances alors qu'on n'en a jamais parlé. On parlait bien sûr, il me parlait de sa vie, moi je parlais de mon métier d'avocat bien sûr, mais il y avait la distance géographique, il y avait la distance de la langue. Je n'ai jamais consulté mon grand-père pour savoir quel choix j'allais faire de telle ou telle matière ou de telle ou telle TD. Donc il ne savait pas vraiment quels étaient mes choix. Et même s'il l'a su, il ne m'a jamais dit que j'avais fait les mêmes que les siens en fait.
Aurélien, pour vous, au Mémorial, est-ce qu'il y a des familles qui viennent avec un peu la même histoire, le même parcours, qui n'écrivent pas forcément des livres, mais est-ce que cet héritage familial, vous le retrouvez avec vos visiteurs ?
Alors oui, nous, au Mémorial, je dirais que c'est notre activité principale. Les enfants et les petits-enfants qui font des recherches sur leurs aïeux, un père, un grand-père. On vient au Mémorial de l'internement et de la déportation pour venir trouver des documents qui peuvent éclaircir un parcours, un moment de vie. Bon, nous, c'est majoritairement des gens qui ont été internés et déportés par Compiègne, mais pas seulement. Il y a beaucoup de gens qui posent aussi des questions sur la mise en place de la déportation de répression durant la Seconde Guerre mondiale en France, parce que même si un des membres de leur famille n'est pas passé par Compiègne, ça permet d'expliquer par quel mécanisme il est passé, parce qu'on sait qu'il a été déporté ou il s'est retrouvé dans un camp, un commando en Allemagne ou en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous, on est vraiment une sorte de centre de recherche qui apportons des réponses aux familles qui sont engagées dans cette recherche-là de la mémoire. Mais comme dans le film de Madame, le livre pardon, de Madame Bélier-Kant, parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui font des documentaires hein, aussi sur leur famille, qui font l'histoire de leur famille. Et à un moment donné, dans ce récit, il y a la Seconde Guerre, il y a la déportation, il y a l'internement, il y a même très souvent la mort hein, dans un centre de mise à mort, dans un camp, parce que les gens étaient juifs. Et donc, on vient nous interroger sur cette partie-là, mais qui est une petite partie d'une grande histoire familiale qui est racontée par, par les gens. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, où la plupart des documents sont de plus en plus numérisés, et notamment les archives, hein, qui sont vraiment... et c'est une des missions des archives en France, mais aussi des archives en Europe et dans le monde, de pouvoir être accessibles via Internet. Il y a beaucoup de gens qui se mettent, déjà un certain nombre il y a plusieurs années, mais maintenant encore plus, qui se mettent à faire des recherches généalogiques, à essayer de retrouver les traces des ancêtres. Et naturellement, nous, au Mémorial de Compiègne, on fait partie de cette boucle. Voilà. Surtout qu'on est un centre de ressources parce que comme on est au centre de parcours qui sont très divers, on est en relation avec beaucoup de centres, d'autres centres d'archives qui sont spécialisés sur ces questions-là en France et en Europe, notamment en Allemagne. Donc on est un centre de ressources et de redirection des gens lorsqu'ils font ce type de recherche.
Alors pas que de recherche, puisque également aujourd'hui, vous avez au départ, vous aviez un bâtiment un peu vide. Hein. Au fur et à mesure, on vous ramène des pièces, on vous ramène des documents, on vous ramène des objets. C'est un nouvel axe de travail pour le mémorial, justement, d'accueillir toutes ces pièces pour les préserver peut-être.
Oui, alors c'est une activité qu'a le mémorial depuis sa création. Il y a même eu des donations d'objets, de documents au mémorial avant qu'il ait été inauguré en 2008, dans une forme de prise de conscience de l'intérêt de ces documents-là, puisque ce sont des documents, des objets, des dessins, enfin tout type de documents historiques qui témoignent de cette période-là. Ce sont des objets qui ont été très tôt perçus comme des objets issus de collections de musées à conserver en tant que telles, mais aussi comme preuve de ce qui s'était passé à Compiègne et ailleurs, puisque Compiègne se situe encore une fois dans un parcours hein, en Europe, durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a eu beaucoup de... au début, beaucoup d'anciens déportés qui étaient encore vivants à ce moment-là et qui ont donné des documents pour les faire reproduire, pour qu'on puisse en avoir une trace, en fait. Souvent, ces documents-là, qui étaient des documents écrits, des documents qui étaient produits au sein même du camp, des lettres, apportaient évidemment des informations historiques, en plus du fait qu'elles existaient en tant que preuve, une documentation historique pour pouvoir mieux comprendre hein, l'histoire du camp, puisque les archives, à ce moment-là, étaient quand même relativement peu étudiées. Et il est vrai que depuis 2019, nous... puisque la municipalité a engagé une réflexion sur la rénovation du parcours de visite du mémorial, le réactualiser, avec pour projet de présenter ces objets-là au sein du parcours, puisque comme vous, pour les gens qui connaissent le mémorial, c'est pas un musée dans le sens où les objets sont présentés hein, dans le parcours, mais aujourd'hui, on a plus de 6000 items, hein, plus de 6000 objets, documents qui sont conservés dans nos archives. Je rappelle qu'en 2019, on en avait 3500. Donc depuis là, 5-6 ans, on a doublé le nombre d'objets parce qu'on a eu une politique active de recherche de documents, une politique active de suivi dans les ventes ou dans les votes aux enchères qui se font dans le monde, de contacts de familles d'anciens déportés dont on savait qu'ils avaient des documents. Et aujourd'hui, malheureusement, hein, ces déportés disparaissent tous. Donc, ces objets restent dans les familles. Donc, nous, on alerte hein, les familles pour leur dire que nous, on est là en tant que centre de documentation et de ressources pour pouvoir conserver ces objets, les documenter et les donner à voir aux chercheurs, les rendre disponibles aux gens qui veulent les consulter, et puis évidemment s'en servir comme outil pédagogique, puisque c'est une de nos missions essentielles. Et donc, notre boulot, c'est vraiment de pouvoir promouvoir cette mémoire au travers de ces objets. Donc, on prend contact avec les familles, et ensuite, les familles réagissent. Soit elles veulent conserver ces objets, parce qu'on peut bien comprendre que pour beaucoup, ce sont des objets qui ont une valeur sentimentale, émotionnelle très forte au sein de ces familles. Et puis d'autres qui donnent spontanément. Donc, vous voyez, là, je vous parle, ce matin, on a encore eu une donation d'une fille de déportée qui est maintenant très âgée, qui habite Marseille, et qui nous a envoyé les documents de son père qu'elle conservait chez elle depuis 80 ans, parce qu'on a pris contact avec elle, parce que, alors, elle n'a pas Internet, on lui a écrit, elle nous a répondu, le courrier n'est pas arrivé, c'était un courrier recommandé, il est retourné chez elle, il est revenu après parce qu'il y avait une mauvaise destination, finalement, on l'a reçu, et elle avait conservé de son père des menus qui avaient été faits dans le camp de Royallieu, dessinés, découpés, ouvragés, qu'elle gardait précieusement, et elle a pris la décision de nous les confier sous la forme d'une donation, donc ça maintenant appartient à la ville de Compiègne, pour qu'on puisse le conserver pour les générations futures. Et je pense que tout à l'heure, on parlera peut-être d'un artiste qui s'appelle Godko, puisque vous en faites référence dans votre ouvrage par rapport au travail qu'a fait, je crois, c'est votre fils, sur le camp de Royallieu il y a une dizaine d'années. Eh bien, par exemple, l'année dernière, on a fait l'acquisition, cette fois-ci, de d'une aquarelle de Jacques Godko et d'un dessin préparatoire de Jacques Godko que l'on a acheté pour faire rentrer dans les collections, parce que ce sont des documents qui sont assez rares, relativement précieux, et notamment un des dessins de Godko qu'on a acheté à une vente aux enchères qui a eu lieu l'année dernière en Israël, pour que ces documents-là soient conservés à Compiègne, et en même temps pour que Compiègne soit vu dans le monde comme un centre important de ressources et de documentation sur cette période-là.
Aurore, une question pour Muriel, pour revenir sur le livre.
Oh, moi, j'en ai plein des questions pour Muriel. Mais je trouve ça formidable, en fait, de voir comment les histoires personnelles, elles peuvent être réutilisées pour l'histoire avec un grand H, carrément. Je trouve ça formidable qu'on fasse ça à Compiègne aussi. Enfin, voilà. donc, Muriel. Bon, j'avoue, j'ai pas lu toute ta bibliographie. Pas encore, en tout cas. Mais je t'ai quand même lu avant ce dernier ouvrage. Mais du coup, je ne connais pas toutes les subtilités de ton écriture. Et même si je savais que tu parlais de ta famille dans cet ouvrage-là, Un instinct de liberté, pour être transparente, je ne m'attendais pas à ce que tu fasses ce choix d'écriture qu'est le témoignage. En fait, je m'attendais à de la narration. Je ne sais pas vraiment à quoi je m'attendais, en fait. Mais j'ai été surprise, du coup, par ce nouveau choix. Et du coup, tu pars de ton point de vue de petite fille et de femme d'aujourd'hui, puisque tu nous emmènes avec toi dans tes recherches, dans tes voyages. Et puis, de temps en temps, on a de la narration quand tu prends le point de vue de tes grands-parents, soit maternel, soit paternel. Et du coup, on oscille entre ton point de vue et leur aventure à eux. Qu'est-ce qui t'a encouragée à faire ce choix-là, en fait ? Moi, ça m'intéresse toujours, le choix des écrivains.
Alors, ça a été très compliqué. Je l'ai refait plusieurs fois. Le choix de départ, en fait, c'était vraiment le point de départ du livre. Mon idée, c'était que je voulais parler de l'histoire de ma famille maternelle, de ma famille paternelle. Je voulais montrer comment, à un moment donné, c'était retrouvé pour me faire moi, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je suis partie de moi en me disant... Qu'est-ce que j'ai en moi ? Qu'est-ce que je porte, en fait, de moi toute seule, mais également de ce que l'on m'a transmis, de ce que mes parents m'ont transmis, de ce que mes grands-parents m'ont transmis. Voilà, c'était ça, en fait, le point de vue. Alors après, je voulais pas parler à la première personne tout le temps. Je voulais pas non plus, parce que j'ai lu beaucoup de livres sur des... des récits ou des témoignages. Je ne voulais pas inventer des choses non plus. Je ne voulais pas me mettre dans la peau de mes grands-parents et de leur prêter des sentiments ou, voilà, que je fantasmais et qui n'étaient pas réels. Donc je me suis appuyée sur des récits qu'eux-mêmes avaient écrits de ce qu'ils avaient vécu. Et puis de ce dont je me souvenais, et puis de ce dont ma maman, qui est ici, se souvenait également, de ce dont ma tante se souvenait, de ce dont ma cousine se souvenait. J'ai beaucoup fait parler, en fait, ceux qui étaient encore là, quand ils étaient encore là.
Et on sent aussi toute la recherche que tu as fait, parce qu'il y a énormément de marqueurs historiques, temporels, dans l'histoire familiale. Enfin, du coup, tu retraces tout vraiment bien dans l'histoire avec un grand H. Et ça, c'est appréciable aussi de pouvoir suivre ce parcours-là. Du coup, tu n'es pas allée en Sibérie ?
Je ne suis pas allée jusqu'en Sibérie. Je ne sais pas si j'arriverai à retrouver d'ailleurs l'endroit précis où c'était. Ce n'est pas l'envie qui m'en a manqué. Mais là, franchement, j'ai été arrêtée par la géopolitique actuelle. Okay. Aller en Russie en ce moment, ce n'est pas forcément une très bonne idée.
Oui, mais c'était avant.
Oui, c'était avant. Mais au moment où j'ai envisagé de le faire, c'était plus une bonne idée.
Ça marche. Sur la couverture de ton livre, tu as mis quelques photos de famille. Je me permets d'en parler, d'autant que j'avais eu le privilège que tu montes la première version de la couverture. J'en souviens, je suis contente. mais j'avoue que, du coup, tu évoques à certains moments dans le livre tel document ou telle photo. Et du coup, je suis une lectrice qui en demande toujours plus. Donc, du coup, pourquoi tu n'en as pas mis plus dans le livre à l'intérieur ?
Alors, j'aurais bien aimé, en fait, c'est l'éditeur qui a estimé qu'il suffisait d'en mettre sur la couverture et qu'il n'y avait pas besoin d'en mettre à l'intérieur. Parce que, en fait, je pense qu'il voulait quelque chose qui soit plus universel que ma propre histoire.
D'accord.
Okay. C'est un choix éditorial.
Du coup, on n'a pas fait don au mémorial non plus, hein.
Non, mais il y a quand même un lien, on peut peut-être en parler, parce qu'il y a un lien fort en fait avec la ville de Compiègne. Et là aussi, il faut croire éventuellement à ce qu'on appelle les constellations familiales et les choses qui dans la vie n'arrivent pas forcément par hasard. Le fait que je me retrouve aujourd'hui à Compiègne, Compiègne est donc le lieu par lequel mon arrière-grand-oncle est passé. Alors, il a donc son nom sur le mur, il n'y est pas resté parce que sa mère a réussi à le faire sortir du camp de Compiègne.
Ça ressemble à un petit miracle, hein, du coup.
Complètement, complètement. On n'a jamais dans la famille su exactement comment elle s'y était prise. Je crois qu'elle l'a fait passer pour malade pour arriver à le faire sortir. Mais en tout cas, il est sorti. Et c'est vrai que... ça, c'est le premier lien. Le deuxième lien, c'est le fait que je me retrouve aujourd'hui à travailler dans cette ville. Et au moment où j'ai fait ce choix de vie, j'ignorais tout. J'ignorais tout du camp de Compiègne, j'avoue. Puisque je vous parle de ça, j'ai commencé à travailler au siècle dernier. J'ignorais tout de... voilà, de l'histoire même de ce camp, jusqu'à quel point l'histoire de ma famille était liée à l'histoire de ce camp. Et je l'ai ignoré pendant très longtemps. Donc je raconte dans le livre qu'à l'occasion justement de l'ouverture de ce mémorial, mon fils a été sollicité par son collège pour un travail particulier. J'étais là pour venir, parce qu'il a été sélectionné, donc j'étais là pour venir l'admirer. Et quand ensuite on nous a proposé la visite du camp, que je découvrais, et encore une fois, j'ignorais totalement que mon grand-oncle était passé par là, je n'ai pas pu faire cette visite. J'ai fait 10 pas dans les allées et j'ai été prise de tremblements. Je me suis mise à pleurer, je suis sortie de là. Et quelques temps après, j'ai découvert que je ne faisais que marcher sur les pas de mon grand-oncle.
C'est fou, je trouve ça
oui,
toujours
c'est fou.
De ressentir même ces choses-là avant de savoir inconsciemment, il y a quelque chose qui s'est passé. Quoi.
Mais les lieux nous... Alors, je vais avoir l'air complètement allumée en disant ça, mais les lieux, je trouve que les lieux nous parlent vraiment, vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je ressens les choses. Et je trouve que justement, ce qui est très, très bien fait dans ce mémorial, puisque moi, j'ai été voir le mémorial de Paris, mais je trouve qu'à Compiègne, il y a vraiment cette... ce respect en fait de ceux qui ont été là et je trouve qu'il y a vraiment une âme dans ce mémorial. Voilà.
Aurélien, t'as un avis j'imagine là-dessus aussi.
Oui, moi je pense aussi, hein, je suis comme vous. Hein, moi aussi, au siècle dernier, je ne savais pas que le camp de Royaliu existait. Hein, cette incarnation, elle est aucunement discutable, parce que de toute façon, c'est un mémorial qui a été installé sur les lieux mêmes. Du camp. Les pavillons militaires qui sont conservés aujourd'hui, ce sont des pavillons dans lesquels les internés ont été emprisonnés, ont été maintenus captifs. Donc on est sur les lieux mêmes. Quand vous citiez le mémorial de la Shoah, c'est un mémorial qui rappelle les noms de tous les Juifs de France qui ont été déportés et assassinés. Là, on est dans les bâtiments mêmes qui ont servi à ça. Donc évidemment, la charge émotionnelle, elle est indiscutable, puisque on est dans ces lieux mêmes, et se pose aussi par rapport à ce que vous avez dit la question de l'émotion qui doit transparaître par rapport à un lieu qui a été utilisé pendant près d'une centaine d'années et qui a été réquisitionné uniquement pendant 3 ans pour être un camp, avec toutes les vies qui se sont succédées dans ces bâtiments, puisque finalement le fonctionnement du camp de 3 ans, il est mêlé à l'histoire d'utilisation de la caserne. Ce sont des lieux aujourd'hui qui sont vides. Il reste que des traces sur les murs. Alors évidemment, le parcours aujourd'hui a été très artificialisé par la scénographie, mais il reste un troisième pavillon militaire qui, lui, n'a jamais été restauré et qui est dans l'état où les militaires l'ont laissé dans les années 90. Et c'est un lieu qui n'a pratiquement pas été modifié depuis sa création, sa construction en 1913. Donc c'est un endroit où là, s'est passé beaucoup de choses et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et tout notre travail, alors c'est amusant parce que on travaille dessus en ce moment, mais il y a un très beau documentaire qui a été repassé il n'y a pas très longtemps de Georges Perec qui s'appelle Récit d'Ellis Island. Et dans ce documentaire qui a été tourné à la fin des années 70 à Ellis Island, au moment où le mémorial d'Ellis Island a été ouvert, il s'interroge en fait. Il a écrit un très beau texte et il s'interroge sur comment faire parler en fait ces lieux, comment faire parler ces endroits. Qu'est-ce qu'on peut bien raconter de l'anecdote, de la vie qui s'est passée ici? Comment le faire transparaître au vu de la masse? Alors, Ellis Island, c'est 16 millions de personnes qui sont passées à Ellis Island. Compiègne, c'est 50 000, dans d'autres conditions, évidemment. Mais toute cette question-là, par rapport à l'émotion qui transparaît au sein d'un mémorial, c'est comment justement rendre justice à ce qui s'est passé et comment le faire transparaître par rapport au fait qu'aujourd'hui, il ne reste plus que des murs et des objets.
Muriel, par rapport à votre métier d'avocate, est-ce que habituellement vous défendez les histoires des autres, les histoires parfois douloureuses des autres? Est-ce que c'est plus facile l'exercice de travailler sur son histoire personnelle ou de travailler sur l'histoire de vos clients et des gens avec qui vous travaillez habituellement?
Bah, la réponse, elle est toute faite. Hein. C'est beaucoup plus facile de travailler sur l'histoire des autres. Alors, ça ne signifie pas que l'histoire des autres ne suscite aucune émotion. Bien au contraire, même si, justement, tout mon travail, c'est d'arriver à la garder à distance. Mais là, oui, j'ai beaucoup pleuré pour écrire ce livre. Voilà. Il y a eu plusieurs fois où j'étais obligée de m'interrompre parce que j'étais en larmes, en fait. Ce que j'explique aussi dans ce travail d'écriture, c'est que je suis allée chercher mes parents enfants. C'est pas dans l'ordre des choses, en fait. Donc, je suis allée retrouver mes parents quand ils étaient enfants. Et c'est ce que je dis. À plusieurs reprises, j'ai eu envie de les prendre dans mes bras au travers de mes pages en leur disant « Vous inquiétez pas, je sais, là, c'est dur pour vous, mais ça va bien se passer. »
La gestion des émotions, c'est pourtant quelque chose de quotidien dans votre travail, j'imagine. Vous ne pouvez pas vous laisser emporter par les sentiments. Du coup, c'est quoi? C'était quelque chose de nouveau que vous avez découvert en vous? Ou c'était finalement, ces sentiments, vous les avez fait sortir?
Non, je sais que j'ai un gros travail à faire sur la gestion des émotions.
Même avec vos affaires?
Même avec mes affaires.
D'accord.
C'est un gros chantier.
Donc là, c'était aussi l'idée de laisser aller...
Oui, alors je ne sais pas si c'est libératoire. L'idée aussi qui a été à l'origine de ce livre, c'était aussi quelque part qu'il n'y ait plus de secret, en fait, puisqu'il y a quand même toute cette notion de secret hein, autour de ce livre. Et je voulais plus qu'il y ait de secret et je voulais pas laisser ce poids-là aux générations qui me suivent. Voilà.
Du coup, je rebondis sur ce thème-là du secret. Moi, juste avant de lire ton ouvrage, Muriel, j'ai lu un autre ouvrage, un livre inspiré de faits réels qui s'intitule « La sage-femme d'Auschwitz ». Du coup, d'ailleurs, j'en ai parlé dans le dernier rendez-vous culture des bibliothèques qui est en podcast sur le site de la radio et sur le site des bibliothèques. Mais du coup, j'étais déjà plongée un petit peu dans le thème de la Seconde Guerre mondiale, de la condition des Juifs polonais dès le début de la guerre. Donc ça m'a, voilà, j'étais dans le même chemin. J'ai bien apprécié dans ton livre, comparé à plein d'autres que j'ai lus sur la même période, tu vas plus loin, parce que tu nous plonges aussi dans l'après-guerre. Que sont devenus tous ces Juifs qui ont survécu, quel choix ils avaient devant eux, en fait, une fois que la guerre était finie. Et j'ai trouvé que c'est un thème qui était important et qu'on aborde assez peu. Et du coup, tu parlais du secret, puisque finalement, y en a qui, tu dis, qui revendiquaient le fait d'être juifs parce qu'il y en avait du coup tellement qui avaient souffert et qui étaient morts à cause de juste d'être juifs, que du coup, il y avait une sorte de revendication du fait d'être juif. Et puis, au contraire, dans ta famille, en tout cas, on a aussi décidé de plutôt taire le fait d'être juif parce que ça avait apporté trop de souffrance.
Exactement. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant de travailler au travers de ce livre, c'est, et d'ailleurs quand je vais en lecture, quand je vais dans les salons, quand je fais des dédicaces, quand je rencontre des gens qui viennent à moi, forcément, ce sont des gens de ma génération, c'est-à-dire c'est la génération d'après. Et c'est important aussi de savoir ce que la génération d'après fait finalement de cette histoire. Comment elle le vit? Est-ce qu'elle le vit bien? Est-ce qu'elle le vit pas bien? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est pas lourd? Est-ce que c'est son histoire? Est-ce qu'elle se l'approprie? Ou est-ce qu'au contraire elle la rejette? Il y a un peu toutes les façons de réagir et je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir en parler et j'ai l'impression que c'est un peu tabou d'ailleurs d'en parler. C'est-à-dire les gens ils viennent vers moi et ils me disent des choses mais un peu comme s'ils avaient honte de le dire. Honte de dire ben oui mais moi je me reconnais pas dans le judaïsme parce que c'est pas mon histoire et puis parce que c'est pas mon choix et puis parce que j'ai pas envie. Et je trouve que c'est important justement aussi de libérer cette parole et si ce livre permet de libérer ça, c'est bien pour moi aussi.
Et vos enfants, du coup, comment ils le vivent, eux? Est-ce que c'est une histoire passée? Est-ce qu'ils ont lu le livre? Comment c'est quoi Parce que vous avez parlé de la génération d'après, mais la génération d'après, comment elle
la
vit aujourd'hui?
Oui, on arrive à la quatrième génération. Alors moi, j'ai un fils qui a toujours été totalement au courant de toute notre histoire et qui n'a pas réussi à dépasser la 10e page parce qu'il me dit ça c'est trop d'émotions, j'y arrive pas. Donc... j'attends qu'ils grandissent un peu.
Ça le chamboule.
Oui, je pense. Je pense que... Et lui, alors, c'est vrai aussi que... alors, il y a certaines personnes qu'il a connues dans ce livre, certaines dont il ne se souvient plus parce qu'il était vraiment, vraiment trop petit. Mes grands-parents, il ne les a pas connus parce qu'ils sont morts quand vraiment il était tout petit, s'agissant des derniers. Et donc, je pense que c'est encore un peu compliqué pour lui, mais il y viendra.
Oui, c'est là. Donc, il pourra y revenir quand
Exactement,
il voudra.
Exactement, c'est fait pour lui.
C'est justement le plaisir des livres, c'est que ça rentre dans l'histoire et puis on peut parfois aller le chercher dans la bibliothèque et puis le lire quand on a envie ou quand on a besoin.
Tout à fait. Et puis, il pourra le lire à ses propres enfants un jour peut-être.
Aurélien, est-ce que c'est le livre de Muriel, Un instinct de liberté? Est-ce que c'est le genre de littérature qu'on peut retrouver au mémorial?
Oui, alors là, en l'occurrence, le livre de Madame Bélier-Kant, c'est vraiment, comme vous le disiez, un livre qui cherche à éclaircir les origines de la famille. C'est-à-dire que votre travail, ça a été de comprendre finalement les non-dits ou les parts obscures de la dynastie familiale depuis le début du siècle. Et du coup, la guerre fait évidemment partie de votre famille comme elle fait partie de toutes les familles. Et toutes les personnes qui se mettent à faire des recherches sur leur histoire familiale et à vouloir raconter le passé familial. Et là, c'est d'autant plus important, puisque ce sont des histoires qui sont quasiment ininterrompues d'immigration, hein, que ce soit vers l'Est, vers l'Ouest, avec des changements de lieu assez, assez fréquents. Et même quand on lit un livre comme ça, on n'imagine plus finalement à force d'en avoir lu la violence que c'est de quitter l'endroit où l'on vit et de devoir s'installer ailleurs pour toute la famille. Et même là, sans l'oppression qui peut avoir lieu pendant les temps de guerre, c'est une violence, c'est un traumatisme, hein, de devoir quitter l'endroit où l'on vit, où on l'a toujours vécu, et devoir s'installer ailleurs dans une autre culture, un autre environnement qu'on ne connaît pas. Et cette histoire-là, elle est commune à tout le monde. Nous, au Mémorial, on a plus tendance, de par notre fonction, à travailler avec des récits qui vont juste se circonscrire autour de la Seconde Guerre mondiale. On a peu de récits familiaux qui reprennent le récit depuis la fin du 19e ou les origines. Nous, les gens qui viennent nous voir et avec qui éventuellement on travaille, on reçoit les manuscrits. Quand c'est pas publié, c'est souvent des gens qui veulent raconter cette période-là de la Seconde Guerre mondiale et l'engagement d'un aïeul au sein de cette période, soit parce qu'il a été résistant, il a fait partie d'un réseau, donc il s'est passé beaucoup de choses. Ils font des recherches pour savoir comment ça s'est passé, comment il a été arrêté, par qui, quel a été son trajet par la suite, comment il a disparu, comment il est mort. Essayer aussi, souvent ce sont des gens qui aussi découvrent le passé, hein, d'un des membres de leur famille. Bon, évidemment, au Mémorial, on est toujours dans une recherche de légitimation par rapport à ce qu'a pu faire un père, un grand-père durant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on n'a pas de personne aujourd'hui, et finalement, moi, je m'écarte un peu du sujet, mais puisque vous me posez cette question-là, on n'a pas de personne, évidemment, on peut le comprendre, qui va essayer d'expliquer pourquoi un aïeul a eu un comportement répréhensible pendant la Seconde Guerre mondiale. On est toujours dans le positivisme. Si on fait ces recherches-là, c'est pour valoriser une histoire familiale, pour l'éclaircir, enfin, en tout cas, pour lui donner un peu plus d'ampleur. Mais les personnes qui vont faire des recherches sur un des membres de leur famille qui n'a pas été, qui n'a pas eu un comportement glorieux, qui a dénoncé, qui a collaboré, ça on n'en a pas au Mémorial. Bon, après évidemment vous allez me dire c'est normal, mais nous on est beaucoup plus ouvert par rapport à ça. Ça fait partie de l'histoire du 20e siècle, ça fait partie de l'histoire des familles, même si c'est honteux, mais c'est honteux au sein des familles, mais c'est pas honteux au sein des générations qui vivent aujourd'hui. Les générations qui vivent aujourd'hui n'ont aucune responsabilité par rapport à ça, par rapport à un des membres de leur famille. Et c'est justement ça qui est intéressant aussi pour nous, c'est de savoir pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, quelles en ont été les conséquences, quelles ont été les conséquences aussi après la guerre. Ça, c'est un sujet qui est important et auquel nous, on a très peu accès.
Est-ce que ce n'est pas le travail des chercheurs, justement, cette partie-là, de mettre en lumière la partie ombre des personnages, des participants, des humains ?
Si. Bien sûr, les chercheurs travaillent sur ces questions-là. Vous avez, par exemple, aux Archives nationales, dans la section de la Seconde Guerre mondiale, énormément de dossiers de lettres de dénonciation, souvent qui sont nominatives, avec l'adresse du dénonciateur, qui pourrait très bien être saisie par un historien. Bon, ce sont des choses qui sont libres. Hein. On peut, sur demande, communiquer. Nous, on travaille de façon très rapprochée avec les responsables du service qui est responsable de la Seconde Guerre mondiale des Archives nationales. Elle nous a déjà montré, on pourrait très bien travailler là-dessus. Il y a des historiens qui travaillent là-dessus. Notamment, il y a un documentaire il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Les Suppliques, si je me souviens bien, qui était lié à cette documentation-là particulière. Mais nous, au Mémorial, on a la possibilité dans le cadre des personnes qui font ces recherches-là sur leur famille, d'avoir un contact direct avec les familles et d'avoir, de comprendre le mécanisme, de comprendre l'état d'esprit dans lequel ces personnes-là ont grandi, évolué pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Par contre, on ne l'a pas pour les personnes qui auraient eu quelqu'un qui aurait un comportement plus répréhensible. On n'a pas, ces témoignages-là. C'est exactement c'est pas un problème, mais en tout cas, c'est la même question qui se pose pour le camp de Royallieu par rapport au fait que, d'un côté, vous avez l'histoire du camp qui est racontée par les victimes, puisque c'est une grande... le mémorial existe pour maintenir la mémoire des victimes, mais on n'a pas l'autre pendant de cette histoire, c'est-à-dire le côté allemand. On n'a pas les témoignages des soldats allemands, des officiers, sous-officiers qui étaient en poste au moment où le camp fonctionnait, leur quotidien, leur rapport avec leur famille, ce qu'ils pouvaient penser. Parce que, évidemment, il y a des Allemands qui ont été condamnés, certains jugés après la guerre, mais la grosse majorité des soldats allemands de la Wehrmacht qui étaient là, ce n'étaient pas des gens qui étaient adhérents au national-socialisme. C'était des gens qui étaient soldats et qui faisaient leur devoir de soldats et qui avaient des rapports normaux avec les internés. Ça, toute cette partie-là, on n'y a pas accès. Parce que ça demande d'aller retrouver les familles en Allemagne, de les convaincre de bien vouloir raconter ce passé familial qui finalement, même s'il n'y a pas de danger particulier, parce qu'il n'y a pas eu d'événements particuliers après la guerre en termes de jugement, de condamnation ou de comportement déviant de ces soldats, reste quelque chose d'un peu tabou.
Muriel, vous avez des choses que vous avez écartées du livre par pudeur ou par manque d'informations trop précises? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez écrites au départ, vous avez commencé à chercher et puis finalement vous ne l'avez pas mis?
Non.
Non, vous avez tout mis.
J'ai tout mis.
J'ai une question encore pour toi, Muriel. Tu racontes à un moment une expérience qui est bien à toi, celle où tu crois que tu vas perdre la vie, toi, à ton tour. J'en dis pas plus parce que je veux aller chez les auditeurs au max. Hein. Mais voilà, cet événement qui se déroule bien avant que tu décides d'écrire cet ouvrage, tu dis qu'il a sans doute inconsciemment modifié ta façon de voir les choses, de les vivre. Et tu l'associes aussi au devoir de mémoire. À un moment donné. Est-ce que je me trompe si je me dis que tu n'avais pas encore fait le choix d'écrire avant cet événement ? Et est-ce que tu penses que d'avoir pris la plume, ça a été, cet événement a pu être un déclencheur pour toi ?
Clairement, c'est le point de départ. C'est le point de départ d'une période de ma vie qui a été un véritable tsunami. Et ça en fait partie. C'est à partir de là. Enfin, c'est une impression très particulière quand on est sûr qu'on va mourir. On se prépare à mourir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a une espèce de paix qui vous envahit quand vous avez accepté le principe que ça y est, c'est fini. Et vous voyez défiler... quand on dit qu'on voit toute sa vie défiler, oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour vous rasséréner, vous regardez ce qui était bien, pas bien dans votre vie. Et puis, vous vous dites, tiens, il y avait des choses que j'aurais aimé faire et que je n'ai pas faites. Et puis, quand finalement, vous ne mourrez pas, c'est très déstabilisant parce que vous êtes en vie et vous avez immédiatement envie de donner un sens au fait d'être resté en vie. Et pour moi, au fil des mois qui ont suivi, ce sens, ça a été celui-là. Je me suis dit, mais en fait, c'est parce que j'ai pas complètement été jusqu'au bout de ce qui était peut-être un devoir pour moi, c'est-à-dire celui de porter la mémoire de ceux qui m'ont précédé.
Oui, en même temps, tu n'as pas commencé par ce livre-là, tu as commencé par écrire sur les autres.
Ah oui, non, mais j'écrivais... j'ai écrit bien avant cet incident dont tu parles.
D'accord.
Puisque mes premiers livres, j'ai commencé à les écrire il y a presque 10 ans maintenant. Et cet incident, il n'est pas aussi vieux.
Donc il y avait déjà une passion qui était là et...
Ah mais de toute façon, j'écris depuis que je suis toute petite. Donc voilà, la seule chose, c'est qu'il fallait passer le cap d'être publié. Mais voilà, j'écris depuis toujours.
On rappelle que l'émission est une émission radio, en live et en direct. Hein. On est à la bibliothèque du centre-ville de Compiègne. Vous pouvez encore nous rejoindre. Il nous reste encore un petit moment d'émission. Justement, comment s'est passé comment on va voir un éditeur pour dire, voilà, j'ai un livre. C'est un éditeur que vous connaissiez avant
Alors là aussi, c'est une histoire de rencontre, en fait. C'est un homme que j'ai rencontré à l'occasion d'un salon qui a écrit lui aussi sur l'histoire de ses grands-parents. Et donc, moi, j'étais toujours en train de terminer l'écriture de ce livre. Et je suis allée le voir pour qu'on échange tout simplement sur nos expériences respectives. Je voulais savoir un petit peu sous quel angle il avait construit son récit. Enfin, voilà, des dialogues d'écrivains. Et puis au fur et à mesure, le courant est bien passé. Et à un moment donné, je lui dis, écoutez, est-ce que je pourrais, moi, vous envoyer mon manuscrit quand il sera terminé, juste pour que vous me disiez ce que vous en pensez, pour avoir vos conseils, en fait, puisque vous écrivez, vous éditez, ça m'intéresserait. Et donc, pour la petite histoire, en plus, je n'avais pas pris son nom. Enfin, bon, j'ai fait tout un travail de recherche pour le retrouver. J'avais fait des photos du salon où j'étais, et donc j'envoyais à tous les auteurs que je connaissais en mettant son visage avec un rond en disant vous le connaissez. Bon, j'ai finalement fini par le retrouver, et donc je lui ai envoyé le manuscrit, et donc au début il m'a dit oh là là, moi je reçois plein de manuscrits, ce manuscrit là je sais pas, enfin bref. Et puis en fait 3 jours après, il a passé toute la journée à appeler mon cabinet en disant faut que je lui parle, et il m'a dit mais moi non seulement j'aime ce que vous écrivez, mais je le prends. Voilà.
Okay, vous savez ce qui l'a touché ? C'est l'histoire, c'est l'écriture, c'est le format, c'est...
Je sais pas vraiment. Je pense que justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas l'histoire d'une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire d'un destin d'une famille qui, va prendre le chemin de l'exil pour sauver les siens, pour sauver ses enfants, bien avant d'ailleurs la Seconde Guerre mondiale, et qui va décider au travers de l'Europe de simplement avoir cet instinct de liberté pour arriver à survivre.
Aurore, sur
oui.
Le livre.
Et de mémoire, pour en avoir discuté avec toi auparavant, il t'a fait aussi retravailler des choses, cet éditeur ?
Oui, complètement. Il m'a notamment fait retravailler justement ce choix dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que j'écris à la première personne ou est-ce que... Parce qu'au début, je mettais mon pépé, ma mémé, enfin non, je ne dis pas comme ça, mais mon grand-père, ma grand-mère. Il m'a dit non, ça va pas, il faut donner les prénoms, il faut voilà, des choses comme ça. Et puis voilà, il y avait des passages, il m'a dit ça ne nous intéresse pas, mais ça, par contre, il faudrait creuser. Il m'a demandé de laisser un peu plus parler mes émotions, parce que justement, je m'étais un petit peu censurée sur ce plan-là. Et puis, on a retravaillé aussi un petit peu la construction du livre, parce que moi, je m'y retrouve, je connais tous les personnages, mais c'est vrai que on s'y perd un petit peu. D'ailleurs, on s'est un petit peu battu sur le fait qu'il fallait un arbre généalogique. Et lui, il n'en était pas convaincu. Finalement, il l'a mis à la fin. Aujourd'hui, il le regrette. Donc, pour ceux qui veulent lire le livre, il faut commencer par aller à la dernière page pour regarder l'arbre généalogique. C'était des choses comme ça. Mais surtout, ce qui a été intéressant, c'est justement le fait de parler pendant des heures avec lui de ce qui nous reliait, c'est-à-dire d'être la génération qui suit celle-là.
Aurélien, sur Mémorial actuellement, c'est quoi l'actualité ? Quelles sont les prochaines expositions ? Il y avait un petit peu un focus sur la bande dessinée, ce qui est toujours le cas ?
Alors là, actuellement, on est en train de présenter une exposition sur l'insurrection de Varsovie de 1944, dont vous faites finalement référence aussi dans votre livre, en tout cas de Varsovie. Hein. C'est une exposition qu'on a montée en partenariat avec l'Institut polonais de Paris et le musée de l'insurrection de Varsovie, qui est un musée, un grand musée à Varsovie, très important, puisque l'insurrection de 1944, c'est quelque chose de très fort en Pologne, puisque c'est un peu l'acmé de la mise en place de la résistance polonaise contre l'occupant. Donc ça, c'est une exposition qu'on va proposer jusqu'au mois de mai, sachant que le musée de l'insurrection a accepté de nous prêter des objets issus de leur collection qu'on présente au sein de cette exposition. Donc la plupart des panneaux qui sont présentés racontent la mise en place base de cette résistance-là en Pologne. Il faut savoir que là, on rentre dans une période de commémoration importante. Évidemment, cette année, c'est les Jeux Olympiques, mais c'est aussi les 80 ans de la libération, des victoires et des débarquements en France et en Europe. Et c'est aussi pour Compiègne les 80 ans de la libération du camp de Royallieu, qui a lieu au même moment que la libération de la ville, hein, dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1944. Et donc du coup, cette exposition s'inscrit dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que il est important de raconter les 80 ans de ce qui s'est passé en France, hein, pour ces commémorations, mais aussi en Europe, parce que le camp de Royallieu, c'est un site qui a une envergure dans l'histoire de la déportation, de répression, de persécution européenne. Et donc nous, on travaille en permanence avec des collègues allemands, des collègues polonais, et plus largement avec d'autres collègues en Europe. Et donc, il est important de pouvoir présenter ce qui se passait au moment, au même moment, je dirais, en Europe, que dans le camp, ou au moment du camp pour ses 80 ans. Alors, cette année, on espère faire suivre cette exposition-là par une autre exposition de bande dessinée. Tous les deux ans, on propose un petit festival de bande dessinée historique. Cette année, on aimerait présenter une œuvre d'un auteur de bande dessinée qui a marqué le XXe siècle. Donc l'auteur s'appelle Edmond Calvo et il a publié en 1944 une bande dessinée qui s'appelle La Bête est morte, où il raconte en deux tomes l'histoire de la Seconde Guerre mondiale racontée par les animaux, à la manière de Walt Disney. C'est-à-dire qu'il raconte la montée de la répression, du nazisme, du fascisme et tout le déroulement de la guerre, mais en utilisant les animaux. Il a commencé à écrire cette bande dessinée, à dessiner en 1944, donc la guerre n'était pas finie, et le deuxième tome a publié en 1945. C'est aujourd'hui considéré comme un des maîtres de la bande dessinée en France et en Europe, et quelqu'un qui a installé une certaine, je dirais, qui fait référence, hein, dans pour ce média. Et donc nous, on a eu la chance de rencontrer son petit-fils, qui a accepté de nous prêter des planches originales de l'album original que l'on va présenter au sein de cette exposition. Et on veut accompagner cette exposition d'un parcours dans la salle d'exposition du mémorial, à la découverte de cet album sous la forme comme un livre pop-up. C'est-à-dire qu'on fait appel à des scénographes qui vont nous faire rentrer en fait dans la bande dessinée et qui vont nous la faire découvrir, mais comme si à taille humaine, si vous voulez, avec tout un ensemble de médias. Alors c'est important pour nous parce que cette bande dessinée, elle raconte ce que c'est finalement la Seconde Guerre mondiale et la libération. Elle s'adresse à tous les publics, à des publics aussi plus jeunes, qui est une de nos, je dirais, de notre public privilégié, bien évidemment. Donc c'est un investissement important que l'on veut emmener jusqu'à la fin de l'année, pouvoir le proposer aussi aux scolaires. On la monte avec la collaboration du Centre Pompidou de Paris, parce que à partir du mois de mai, le Centre Pompidou met en place une grande exposition sur les grands noms de la bande dessinée européenne, mondiale, et elle va présenter comme auteur de référence Calvo. Donc on se partage la présentation des planches originales. En parallèle, là en ce moment, dans le hall du mémorial, on présente une petite exposition sur Mère Marie Skoptsov, qui est une religieuse orthodoxe, qui est la patronne de la nouvelle paroisse orthodoxe de Compiègne et qui a été canonisée il y a quelques années. Hein, c'est devenu une sainte et elle était déclarée juste parmi les nations parce qu'elle a sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était résistante à Paris et elle a été internée au camp de Royallieu et elle est morte en déportation à Ravensbrück. Donc en partenariat avec la paroisse, on présente une petite exposition pour montrer cette figure Ségur, parce que c'était la communauté orthodoxe était une communauté qui était importante à Royallieu, dans les différentes parties, dans les parties du camp. Et à partir du mois de mai, aussi dans le hall, on va présenter une autre exposition sur les justes parmi les nations de l'Oise, sachant qu'à Compiègne, il y a deux familles de justes parmi les nations.
Vous, Muriel, sur l'actualité, vous allez faire des rencontres avec, avec des publics, vous êtes invité à des festivals littéraires, c'est quoi votre actualité ?
Oui, tout à fait. Ce livre déjà a été sélectionné pour participer donc au festival du Mémorial de Caen. Il va y avoir une commémoration aussi à l'image des commémorations dont on parle pour Compiègne. Donc c'est le week-end du 25 au 26 mai et donc il va être présenté à cette occasion. Et puis ensuite je vais reprendre la route pour faire les salons au fur et à mesure du temps que j'ai et des invitations que je reçois.
Des rencontres avec des scolaires, on a peut-être un public de professeurs qui nous écoute. Est-ce qu'ils peuvent vous inviter dans leurs établissements pour parler du livre, pour parler de votre histoire ?
Oui, bien sûr. Il y a déjà un collège qui a pris contact avec moi pour étudier éventuellement un travail possible pour l'année prochaine. Mais oui, bien sûr, vous imaginez bien, compte tenu de toute façon de ma spécialité, de mon métier, parler aux enfants, c'est véritablement un choix de vie.
Alors toi, Aurore, en tant que spécialiste lectrice, on va dire, ça s'adresse à quel public, à partir de quel âge on pourrait conseiller ce livre ?
Ça, c'est une très bonne question. En vrai, je pense qu'à partir du collège, sans problème, peut-être pas directement pour les sixièmes, parce que c'est encore un petit peu tôt, mais cinquième, quatrième, je pense que ça passe sans problème, parce que c'est écrit avec beaucoup de pudeur, quand même. Enfin, je trouve.
Et alors, je tiens à le dire, parce que je le dis à chaque fois quand je le présente, c'est pas un livre triste. C'est pas on parle très peu d'ailleurs de choses tristes dans ce livre. Au contraire, on parle de lumière, on parle d'espoir, on parle de la suite. Donc c'est pas un livre gore ou un livre qui fait pleurer normalement.
Et avant de terminer cette émission, Aurore, comment t'es rentrée dans le livre ? Alors toi qui lis beaucoup de livres, est-ce que t'es rentrée facilement dedans ? Est-ce que c'était une obligation de le lire pour l'émission ? Comment ça s'est passé un petit peu cette lecture ? Est-ce que tu l'as dévoré ?
Alors je l'avais acheté avant de savoir qu'on allait faire l'émission, donc de toute façon je l'aurais lu quoi qu'il arrive. Et juste au début, j'ai été surprise par ce témoignage, par cette façon que tu as eu, toi, d'écrire et de présenter ton histoire. Et une fois que ma surprise était passée, je suis complètement rentrée dedans. Et puis, pour reprendre la question de la cible de lecture, tu l'as dit tout à l'heure, Muriel, tu voyais tes parents enfants, tu avais envie de les prendre dans tes bras. Et en fait, c'est aussi beaucoup une histoire qui tourne autour des enfants. Donc je pense que pour un public, même collégien, ça peut tout de suite parler, parce qu'on est, directement plongé avec les enfants dans le cœur de l'histoire. Donc non, après, je l'ai lu parfois jusqu'à tard le soir, sans problème, parce que j'avais pas envie de lâcher le truc. Ouais.
Alors c'est vrai qu'on l'a pas fait en début d'émission, mais comment tu le pitcherais un lecteur qui vient à la bibliothèque et qui prend le livre et qui dit expliquez-moi le livre, comment t'expliquerais le livre au lecteur ?
Non, alors pour le pitch, on demande toujours aux auteurs de faire ça parce qu'ils détestent faire ça. Donc voilà, moi je vais laisser Muriel pitcher son roman.
Alors moi je déteste pas du tout. Moi j'explique toujours que c'est l'histoire de mes grands-parents en fait, pour une bonne partie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est en fait l'histoire de leur destin.
C'est comme ça que tu l'aurais pitché aussi ? T'aurais rajouté quelque chose en plus ?
Du coup, je peux pas dire que c'est l'histoire de mes grands-parents. Mais moi, je le vois plutôt vraiment comme, oui, effectivement, un destin assez incroyable, parce que quand on voit les kilomètres et les kilomètres et les kilomètres que ces personnes ont traversé pour rester en famille, et toujours, il y a toujours cette envie de garder le noyau familial intact, et effectivement, c'est très porteur d'espoir. Ça, c'était pas du tout triste, par rapport au livre que j'ai lu avant, du coup, La sage-femme d'Auschwitz, qui était... Là, c'était émotionnellement, c'était encore différent. Là, on est vraiment toujours... On va de l'avant, tout le temps. Et physiquement aussi, on va de l'avant. Donc, on voyage beaucoup. On voit des paysages complètement différents d'un chapitre à l'autre. Et en même temps, on se rend compte de tout ce que ces personnes ont vécu à une période... qu'on connaît normalement pourtant bien, parce qu'on l'a tous étudié à l'école, etc. Et ça apporte un éclairage encore différent. Enfin, moi, j'ai appris des choses que j'ai jamais lues dans d'autres livres et que j'ai jamais appris à l'école, quoi. c'était hyper intéressant.
Muriel Bélier-Kant, merci beaucoup pour cet entretien. On rappelle le nom de l'ouvrage, Un instinct de liberté, aux éditions Man Édition, si je ne dis pas de bêtises.
Non, Man Édition, c'est ça.
Et le tarif, on peut l'avoir à quel tarif? 18 euros, tarif public?
Il est 18,90 €.
Où est-ce qu'on peut le trouver dans le Compiénois?
Dans le Compiénois, on peut le trouver chez Cultura.
Aurélien Lacnat, merci beaucoup. Vous êtes, on rappelle, directeur du mémorial de l'internement, de la déportation à Compiègne et également futur DAC de la ville de Compiègne. Et du coup, Orange et Bleu, merci, bibliothécaire à Compiègne, animatrice également à tes heures perdues pour l'émission.
Pas perdue du tout.
On rappelle le nom de l'émission que vous organisez avec les bibliothécaires de la ville.
Les rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Qui est une fois tous les
deux mois à peu près. On a rendez-vous culture classique où on parle de nos coups de cœur littéraires, de nos coups de cœur jeux, éventuellement cinéma. Et puis on a aussi le rendez-vous culture série.
Et merci à vous les auditeurs et au public d'être venus aujourd'hui si nombreux. Retrouvez évidemment cette émission en podcast si vous l'avez pris en cours de route sur www.graphite.net. Et à très bientôt sur nos ondes. Merci.